Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonjour à tous, bienvenue sur un épisode spécial de Popcorn. Je suis Enora et suis accompagnée de Juliette.
Bonjour.
Et de Arthur.
Bonjour.
Nous sommes donc allés interviewer Amélie Zimmermann, plus connue sous le nom de Fashion Quiche, qui décrypte la mode d'un point de vue philosophique sur les réseaux sociaux et analyse aussi le costume au cinéma. On vous laisse avec l'interview.
Merci Amélie, alias Fashion Quiche, de nous accorder cette interview. Sur les réseaux sociaux, notamment YouTube et Instagram, et TikTok depuis très peu de temps, tu parles de mode avec un angle philosophique et sociologique. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que tu analyses aussi beaucoup les costumes des films et des stars du cinéma. C'est donc de mode et de cinéma dont on va parler aujourd'hui.
Et donc pour recontextualiser, on t'a rencontré lors du Lyra Cinéma Club, donc le ciné-club animé par Jeanne Lyra, au cinéma Les Trois Luxembourg, et à cette occasion, c'est toi qui avais choisi le film Tomboy de Céline Sciamma. Et du coup, on voulait te demander pourquoi ce film Tomboy et quel est le rôle des vêtements dans ce film.
Alors bonjour tout le monde, merci de me recevoir. Et pourquoi ce film? Parce qu'il y avait plusieurs contraintes dans la demande, dans l'invitation de Jeanne. La première, c'était que c'était un long métrage qui devait être fait par une femme, une réalisatrice. Et son thème cette année pour son ciné-club, c'était Garçon sensible. Et en vrai, quand tu commences à réfléchir, il n'y a pas tant de choses qui me sont instinctivement venues à l'esprit. Et l'un des premiers films auxquels j'ai pensé, c'est Tomboy de Céline Sciamma, parce que j'avais vu ce film pratiquement à sa sortie. Je devais être au début du collège, je devais avoir 12 ans. Et je ne l'ai jamais revu depuis, jusqu'à cette fameuse séance. Et je ne sais pas, il m'avait fait une très forte impression. J'avais le sentiment qu'il y avait plein de choses, plein de thématiques qui pouvaient être intéressantes de redécouvrir aujourd'hui, 10 ans, 15 ans après, parce que c'est un film qui explore la thématique de la transidentité, etc., etc., mais dont on ne parlait pas du tout comme ça à l'époque, finalement. Je pressentais plein de choses, et puis j'avais envie de comprendre un peu pourquoi il m'avait fait tellement d'effets et pourquoi j'ai continuer à penser à lui toute mon adolescence et tout. Donc c'était aussi par curiosité de redécouvrir un film qui m'avait un peu chamboulé en étant pré-ado moi-même en fait. Et pourquoi le rôle des vêtements, j'avais pas du tout conscientisé ça à l'époque, mais en le regardant il y a 15 jours, 3 semaines, ça m'a quand même sauté aux yeux. C'est vraiment la fonction de performance du vêtement, en fait, au sens où Judith Butler peut l'entendre, dans le sens où un vêtement, une robe, faire d'un garçon ou d'une petite fille, un garçon ou une petite fille. Et c'est quelque chose qui est très, très marqué dans ce film, puisque le héros slash héroïne, c'est à la base une petite fille qui, en fait, un garçon manqué et qui, en fait, va explorer en mentant sur son identité. Ce que c'est que d'être un petit garçon, et en fait, au moment où il faut arrêter la mascarade, ou au moment où il faut performer le rôle de la petite fille, on lui fait porter une robe. Donc il y a tout ce jeu qui est quand même hyper important dès l'enfance, de performativité du genre, et de, un corps d'enfant qui finalement est difficilement discernable entre féminin et masculin, le vêtement va apporter cette lumière là-dessus, va faire du corps biologique un corps social, en fait, un peu. Voilà.
Merci beaucoup pour cette réponse. Ensuite, on a des questions un peu plus générales sur déjà ton parcours. Donc, tu as fait un master de philo à l'ENS. Et ensuite, là, tu as étudié également la mode, du coup, au London College of Fashion. Et du coup, quelle vision ça t'apporte, toi, la philosophie sur la mode?
Je pense que le choix de la philo, il s'est fait progressivement. Moi, j'ai fait une licence hyper généraliste qui s'appelle le CPES. D'ailleurs, il y a plein de sciences pistes qui n'ont pas Sciences Po, qui vont au CPES. Enfin, c'est ce genre de profil et c'est assez rigolo. Et du coup, c'est petit à petit que je me suis tournée vers la philo. J'hésitais beaucoup avec l'histoire des arts, mais je sais pas... j'avais des meilleurs profs aussi en philo. Enfin, ça s'est fait juste un peu comme ça, la philo. Et je pense que tout au long de mes études, même déjà en licence, c'était une formation, on était beaucoup formés à la recherche, où j'ai dû écrire mon premier mémoire qui faisait que 50 pages, mais c'était quand même un travail de recherche en L2, etc. Du coup, j'ai eu ce regard théorique sur la mode de très tôt, on va dire, sachant que moi, la mode comme industrie, je l'ai découverte assez tard, quand j'étais en seconde, en fait. J'ai découvert ce truc en seconde. Avant, je ne connaissais pas forcément la mode, ni les créateurs, ni les mannequins, ni comment ça fonctionnait et tout. Et je pense que j'ai été très vite fascinée par cette industrie. Et derrière la fascination, il y avait une volonté de comprendre. Et comprendre, c'était aussi démythifier et démystifier un peu l'industrie. Et la philosophie m'a donné des clés pour comprendre cette fascination et l'enjeu que ça peut avoir, les dynamiques de pouvoir, etc., qui sont en jeu dans une telle industrie où la représentation est hyper importante et tout. Et du coup, moi, ça m'a vraiment permis aussi de légitimer ma passion, parce que j'avais toujours l'impression que c'était une activité pour les jeunes filles, un peu frivoles. J'avais toujours un peu l'impression de devoir me justifier quand je disais que je travaillais sur la mode. Et puis ça m'a permis de comprendre plein de choses sur des trucs qui étaient emmêlés dans moi, qui j'étais aussi, et pourquoi est-ce que j'appréciais me maquiller, mais en même temps, je comprenais pas. Enfin bref, tous ces trucs de quand tu deviens une femme et qui peuvent être compliqués, bah, la philo, en portant un regard philosophique sur la mode, ça m'a permis de les comprendre et de les appréhender théoriquement.
Et du coup, après, pourquoi avoir fait le choix de ensuite poursuivre au London College of Fashion ?
Bah alors, deux motivations. La première, c'est vraiment Londres. J'avais vraiment envie de partir à Londres à cause du... Enfin, en gros, j'avais fait une année de césure entre mon M1 et mon M2 de philosophie contemporaine. Et au cours de laquelle, à l'origine, j'aurais voulu partir à Londres, sauf que le Covid est arrivé. Et du coup, je suis restée à Paris, j'ai fait des stages à Paris et tout. Et j'ai complètement évacué la question de Londres, alors que c'est quand même un truc qui m'habite un peu depuis même la licence. Et en fait, à la fin de mon Master 2, quand j'étais en train de finaliser mon mémoire et tout, je me rendais compte que cette idée de Londres, elle habitait encore quelque part. Je me suis toujours dit que faire son année à l'étranger, c'était quand même plus facile de la faire en étant étudiante qu'en cherchant du travail, surtout depuis le Brexit avec Londres. Enfin, tu peux pas rester à Londres si t'as pas de visa et tout. Et puis, parce qu'aussi dans ma formation philosophique à l'UNS, j'avais pas de cours d'histoire de la mode ou de philosophie de la mode ou de théorie de la mode à proprement parler. C'est des recherches que j'ai butinées à droite, à gauche, toute seule. Mes profs ne m'ont jamais mis de bâton dans les roues pour étudier ces objets d'études, mais ils n'ont pas pu m'apporter vraiment de lumière parce que ce n'était pas du tout leur domaine. Et je sentais qu'il y avait peut-être encore des petites lacunes, notamment d'un point de vue historique. Et j'avais un peu envie de les combler. Donc je me suis inscrite à ce truc. Voilà.
Et donc tu as ensuite continué ces passions sur les réseaux sociaux et ta chaîne YouTube. Et donc comment a commencé cette aventure ?
À l'origine, ça a été pas par le biais de vidéos, c'était par le blog que j'ai encore, mais que je ne tiens plus à jour depuis très longtemps. Ça fait partie d'un de mes nombreux projets. Et en fait, j'écrivais des articles directement en L1. J'ai commencé ce truc parce que c'est vrai que ça me manquait en fait. Moi, j'ai toujours... Enfin, ça peut être un peu galvaudé de dire ça ou prétentieux, mais j'ai toujours été assez passionnée comme tempérament. Quand j'étais au lycée, au collège, je faisais énormément de danse. J'en faisais genre jusqu'à 6 heures par semaine et j'avais toujours besoin d'avoir un truc à côté de juste des cours qui me portent un peu. Et du coup, je me suis dit, ce truc de la mode qui me plaît, plutôt que de le mettre entre parenthèses le temps de faire mes études, je vais quand même en parler à côté. Et du coup, j'ai fait un blog. Et je pense qu'il y a aussi un truc un peu narcissique. Hein. Enfin, j'ai toujours bien aimé être regardée, être écoutée. Et puis, partager des trucs sur Internet, c'est un truc qui m'a toujours plu. Depuis que je suis petite, j'ai eu un compte. J'ai eu un Tumblr hyper abondant à l'époque. Enfin, j'ai toujours aimé Internet et cette espèce de micro-monde qui n'a pas que des avantages, mais en a quand même beaucoup. Et c'est mes amis qui m'ont conseillé de passer au format vidéo parce qu'ils me disaient que mes articles étaient trop longs et qu'on pouvait un peu se faire chier en les lisant. Et ils m'ont dit non, mais là, il faut que tu dynamises, il faut que tu juste montres ta tête et mets des images et bouge et il faut que ça prenne un peu vie. Et sous leurs conseils, je me suis un peu lancée et voilà comment ça a commencé, quoi.
Et comment tu t'inspires et tu te documentes et tu trouves des sujets pour tes vidéos ?
Justement, vu que... Je trouve que dans mon activité professionnelle, parce qu'à côté de mes études, j'ai aussi bossé en freelance pour plusieurs boîtes de mode ou trucs, mon activité d'étudiante et mon activité de fashion quiche, tout se répond un peu. Et c'est vrai que quand j'étais encore en études, là j'ai fini mon master de londonien, enfin, j'ai rendu mon mémoire la semaine dernière, donc j'ai officiellement terminé, mais ça fait vraiment pas longtemps. J'ai eu des essais à écrire, des mémoires à faire, et du coup, en fait, certaines lectures que je faisais pour l'école, je me disais, putain, mais c'est hyper intéressant. Je retravaillais le truc pour en faire un format vidéo, ou alors des trucs que je voyais passer avec le travail. Enfin, tout ça se nourrissait un peu et c'est comme ça que je trouve mes idées généralement, ouais.
Et comment aussi tu décryptes le costume au cinéma, parce que tu le fais pas mal quand même dans tes vidéos, notamment avec Euphoria.
Ouais. En fait, j'avais initié cette série qui est costume au cinéma sur ma chaîne YouTube avec Harry Potter il y a 3 ans, je pense, enfin en 2019 avant le Covid. Et parce que je suis une grande, grande fan d'Harry Potter, oui. Et je pense que enfin, les costumes et tout, c'est carrément donné enfin, d'analyser les costumes Harry Potter, tellement c'est facile, mais en même temps enfin, passionnant et tout. Et après, j'avais fait Euphoria parce que, pareil, c'est une série où il y a tellement un soin du vêtement, un soin de l'apparence, de l'image et tout, que ça serait dommage de ne pas interpréter certains arcs narratifs par ce biais-là, je trouvais. Et parce que j'aime beaucoup, finalement, regarder des films, regarder des séries. Après, ça m'est un peu tombé dessus par hasard aussi parce que j'ai commencé à collaborer avec Arte Cinéma. En 2021, début 2021. Et en fait, c'est eux qui sont venus me trouver totalement au hasard parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour le Festival de Cannes, pour couvrir le Festival de Cannes. Et moi, avant ça, je m'étais jamais... Enfin, j'avais fait ces petites vidéos sur ma chaîne, mais c'était plus... voilà, quoi. Enfin, jamais je m'étais dit, je vais me spécialiser dans le cinéma. Mais tu sais, c'est un peu ce truc où si j'avais voulu faire de la mode, on m'aurait invité... du cinéma, on m'aurait invité au défilé de mode. Et là... J'ai envie de faire travailler dans la mode, mais on m'invite au Festival de Cannes. Bon, j'ai pas envie de cracher dans la soupe, mais de base, c'était pas ça mon objectif. Et du coup, voilà, j'ai commencé à mettre en place un peu ce truc avec Arte. On a une série qui s'appelle Déshabiller le cinéma, qui sort sur Instagram, sur le format de Reels, où en gros, je vais un peu débunker la cinématographie ou un personnage ou... d'un cinéaste ou quoi, par le biais des costumes, parce que je pense que, notamment pour Arte, c'est hyper intéressant, vu que c'est un média qui a du mal peut-être à venir chercher une audience plus jeune, ou une audience qui n'est pas forcément bourgeoise, ou qui n'a pas forcément les codes et tout. Je pense qu'il faut intéresser les gens en leur parlant de trucs qui sont des trucs qui nous concernent tous. Et en fait, si on commence à... Je sais pas, analyser le cycle Jim Jarmusch avec tous ses premiers films qui sont quand même des films difficiles d'accès, moi je trouve, quand on n'a pas les codes du cinéma, Permanent Vacation,
c'est génial,
etc. Jim Jarmusch. Ouais, mais tu vois, il faut trouver une manière, je trouve toujours, c'est presque un prétexte le costume pour venir parler de choses qui dépassent le costume à la fin, mais qui s'inscrivent aussi ouais, dans cette manière que les personnages ou que même un ou une réalisateur, réalisatrice peuvent avoir de s'habiller, en fait. Moi, je pense, le prochain qui sort, c'est sur Agnès Varda, là, ça sort ce soir à 18h, d'ailleurs. Et genre, enfin, c'est pas ce que j'ai fait, au final, parce que j'ai fait autre chose, mais j'aurais trop aimé parler de la coupe de cheveux d'Agnès Varda et comment est-ce que toute sa cinématographie peut être lue à travers cette coupe, tu vois. Je trouve ça amusant, smart, parce que ça te permet d'aborder plein de sujets où on s'attendrait pas que tu les abordes, en fait. Et c'est très, désolée pour le terme, mais genre social media suited, parce que en fait, les gens sur les réseaux sociaux, ils aiment bien parler de mode, ils aiment bien parler de trucs comme ça, de détails, de machin. Et tu vas pas faire un exposé comme tu ferais un exposé à Sciences Po, tu vois. Enfin, faut trouver... Donc c'est une entrée, en fait, je trouve.
Alors, parmi tous les costumes que tu as pu voir au cinéma, si tu devais en choisir un, ton préféré, ce serait lequel?
C'est horrible parce que j'adore poser les questions comme ça où il faut choisir de superlatif ou de préféré, mais je ne sais jamais y répondre.
On n'aime jamais y répondre.
Je les pose toujours, mais je suis très mauvaise pour y répondre. Attends, je réfléchis. Oh là là. Bah, je suis très attachée, forcément. C'est une réponse peut-être un peu simpliste, mais au costume de Virgin Suicide ou de Marie-Antoinette, parce que Sofia Coppola, parce que plein de choses, et que, enfin, juste l'adolescence. J'étais ado en découvrant ces films et que, je sais pas, ça a genre créé un truc dans mon esprit où je me suis dit, waouh, c'est incroyable en fait. Il y a des femmes qui réussissent à faire de ces trucs. Et du coup, j'aime beaucoup, notamment dans Marie-Antoinette, le fait que ça soit très anachronique, qu'il y ait beaucoup d'humour, que, je sais pas, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Ça, c'est amusant en même temps, ça vient vraiment servir le propos du film. C'est des costumes qui sont beaux aussi. Mais sinon, à part ça, mon costume préféré, oh là là, c'est tellement compliqué. Je pense que toutes les robes de In the Mood for Love,
oh, c'est incroyable.
Me, enfin, juste, c'est des images que tu peux regarder. Tu pourrais regarder ce film sans le son, et c'est magnifique, quoi. Enfin, il y a à chaque plan, il y a une nouvelle robe. Enfin, à chaque séquence, il y a une nouvelle robe, et c'est juste magnifique. Enfin, la classe de ce couple, juste. Je pense que c'est une de mes dernières claques parce que je l'ai vue il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans. Et c'est vraiment, pour moi, c'est trop beau, quoi. Mmh. Voilà.
Et alors, avant un peu de décrypter ce monde-là, si tu avais un film qui parle du monde de la mode que tu aimerais bien, ce serait lequel ?
Un film qui parle du monde de la mode que j'aime bien. Un film, ça peut être un docu ou fiction ?
Ça peut être un docu, comme tu veux.
Ok. Je pense que ce qui m'a fait aimer la mode et en même temps la comprendre et tout, c'est The September Issue. Où en gros, c'est un docu où on suit... Alors, je pense pas qu'il y ait vraiment de qualité cinématographique à proprement parler dans ce docu, mais c'est pas mal parce que tu suis en fait toute la construction du numéro de Vogue US du mois de septembre avec Anna Wintour, qui est le numéro le plus important parce que c'est la rentrée fashion. C'est la Fashion Week qui va commencer, c'est la couverture la plus importante. Et on voit beaucoup la collaboration entre Anna Wintour et tous ses collaborateurs et tout. Et en fait, on se rend compte de la folie que c'est. Et à la fois, genre, c'est hyper drôle parce que tu te dis, ils sont tous hystériques et fous alliés. J'adore. Et en même temps, heureusement que je ne travaille pas là-dedans. Et en même temps, c'est tout ce que j'adore aussi. C'est pourquoi j'adore la mode. C'est qu'en fait, tu te rends compte que c'est complètement débile de se mettre à un niveau de pression tel pour des images qui vont être feuilletées à la va-vite. Et en même temps, en fait... comment est-ce qu'ils en viennent à s'engueuler sur un setting photo parce que c'est pas le bon accessoire, c'est pas le bleu qu'il fallait exactement. Enfin, je trouve que ça dévoile beaucoup de choses de la mode que je trouve hyper attendrissantes et en même temps... enfin voilà, genre moi c'est vraiment ça qui m'a initiée à la mode. Après, il y a plein d'autres films et pas que docu que j'ai adoré sur la mode. Et un des derniers, c'est celui de... comment s'appelle-t-il ? Sur le couturier, là. Phantom Thread, que je trouve super sur justement le couturier un peu tyrannique et tout machin. Mais ça, c'est plutôt une côté fiction. Ouais.
Mais justement, sur la représentation de la mode au cinéma, alors il y a un peu deux tendances, on pourrait dire. Un côté, on va montrer les grandes figures de la mode, parfois un peu tyranniques, à la Saint-Laurent, à la Phantom Thread, à la House of Gucci, ou alors aussi un milieu qui peut être destructeur, notamment pour les femmes. Là, ça va plutôt être The Neon Demon et des choses comme ça. Un peu la synthèse des deux, on pourrait dire que ce serait le diable s'habillant en Prada. Est-ce que cette représentation-là du monde de la mode, est-ce qu'elle est véridique ? Est-ce que c'est vraiment comme ça, au fond, que fonctionne la mode ?
Je ne sais pas, parce que j'ai qu'un pied dans la mode, moi, au final. Pour le moment, je ne suis pas non plus partie intégrante de ce système-là. Et c'est cool aussi d'être un peu une outsider. Mais je pense que ouais, quand même. Parce que la mode, c'est un milieu qui est hyper cruel et qui quand même marche. Enfin, je veux dire, il y a eu tout un tollé là récemment sur la démission de Sarah Burton pour Alexander McQueen, qui a été remplacée encore par un styliste homme. Et cette prévalence des figures de créateurs hommes à la tête de maisons de couture qui vont habiller les femmes et tout, c'est encore quelque chose qui est hyper d'actu. En fait, il y a très... Je veux dire, si on demande à n'importe qui de nous citer 5 styliste ou couturière femme, je pense que c'est pas dit qu'on y arrive, tu vois. Donc je pense qu'il y a cette espèce d'ambivalence de la mode qui est quand même une industrie qui tourne autour des femmes, mais qui est quand même contrôlée par les hommes, toujours et encore, les hommes blancs qui plus est. Et à la fois, je pense que parce que c'est quand même, enfin, dans les grandes boîtes et tout, c'est quand même à 80% des femmes, enfin, je dis un chiffre complètement au pif, mais c'est beaucoup, beaucoup d'employés féminines, ce qui change la donne quand même, je pense, de travailler avec des femmes. Mais après, il faut avoir aussi un regard très intersectionnel, parce que c'est qui ces femmes ? Enfin, je veux dire, c'est pour la plupart des femmes bourgeoises d'un certain milieu, plutôt blanches, machin et tout, tu vois. Donc, c'est pas non plus représentatif de plein de trucs. Mais je pense qu'il y a dans ce... Enfin, il y a aussi une potentielle... Enfin, c'est aussi un milieu où les gens s'amusent. Et ça, peut-être que les représentations au cinéma n'en tiennent pas trop compte et n'en tiennent pas trop rigueur. Et c'est pour ça que je trouve que Le Diable s'habille en Prada, il est génial. Parce qu'en fait, c'est un film qui est drôle. Et c'est un milieu où les gens savent que ce qu'ils font, c'est finalement pas vous. Enfin, évidemment que ça change le monde, et évidemment que non, tu vois, il y a toujours cette espèce d'ambivalence, mais les gens, enfin, pour la plupart, se marrent aussi, il y a beaucoup d'humour, et il y a beaucoup de lucidité aussi, quand on suit Loïc Prigent, et quand on voit son livre « J'adore la mode et c'est tout ce que je déteste », c'est exactement ça, et je pense que peut-être que dans les représentations et cinéma qui manquent, il y a cette dimension d'ultra-lucidité, et parfois de plus en plus de dissonance cognitive des gens qui font la mode, de se dire bah, dans le monde d'aujourd'hui, avec l'écologie, avec le machin, le truc, comment est-ce qu'on continue à faire de la mode dans ce contexte-là ? Enfin, ça touche plein d'industries, cette dissonance cognitive, mais ça touche aussi la mode, je pense.
Et moi, je t'ai découverte grâce à une copine qui m'a fait découvrir ta vidéo sur le tapis rouge, et elle savait que j'aimerais, et elle avait raison. Et du coup, je voulais savoir quel est le rôle du tapis rouge selon toi, que ce soit pour la promotion des films ou pour les artistes, comme en tant que vitrine de créateur peut-être.
Ouais, bah pour moi, le tapis rouge, il a une vocation, il a plusieurs vocations, mais la principale, je dirais que c'est le tapis rouge qui produit le rêve, en fait, je pense. Et c'est assez frappant quand tu vas à Cannes. Moi, j'ai eu du coup cette chance inouïe d'assister au Festival de Cannes grâce à Arte au printemps 2021. Et en fait, c'est comme une espèce, il y a presque un côté un peu liturgique, je trouve, un truc de procession où il y a les stars qui arrivent, qui sont acclamés, qui sortent de la voiture aux vitres teintées et qui vont monter les. Et en fait, après, ce qui se passe dans la salle, les gens ne le savent pas. Je veux dire, ce qu'on sait du Festival de Cannes, c'est les stars qui ont été prises en photo sur le tapis rouge. Il y a quelque chose vraiment. Je pense qu'il n'y a pas que du négatif là-dedans et que ça ne nous éloigne pas forcément de l'objet culturel qu'est le film, mais que ça vient peut-être avoir même quelque chose de cathartique un peu, de voir... je sais pas, ça me faisait vachement penser à l'Olympe avec ces espèces de demi-dieux qui n'ont plus vraiment quoi que ce soit de réel. C'est là le danger aussi, hein, c'est parce que du coup on voit toutes ces femmes, parce que bon, les hommes sur les tapis rouges, ils ont quand même moins la vedette, on va pas se mentir. Il y a quelque chose où vraiment, il y a de l'ordre de l'apparition, on va, je sais pas, on voit ce corps qui n'est plus corps. Et dans ma vidéo, je parle d'une conférence qui a été donnée par Michel Foucault dans les années 60 sur France Culture, qui est magnifique, qui s'appelle Le corps utopique. Et elle est dispo sur YouTube. Je vous conseille à tous et à toutes de l'écouter, c'est vraiment trop trop beau. Et ils en ont fait un petit bouquin aussi qui se lit vraiment en genre une heure. Et dans lequel il parle justement de l'utopie. L'utopie ultime, en fait, c'est d'avoir un corps sans corps. Et moi, j'ai l'impression que lors du Festival de Cannes, les acteurs et les actrices, ils incarnent cette utopie. Ils ont un corps qui n'a plus rien de matériel, en fait, qui est complètement céleste. Et il y a un peu un truc dans la société du spectacle dans laquelle on est, avec toute cette hypermédiation de l'image et tout. Ouais, il y a quelque chose qui se réalise sur ces marches-là. Et c'est très bizarre d'y assister, je trouve.
Bah, tu disais que les hommes ne sont pas les stars des tapis rouges, et tu as fait une vidéo même sur pourquoi les hommes s'habillent mal, je crois que c'est un truc comme ça.
Oui, c'est exactement
et
ça.
Du coup, on se demandait, si, est-ce que c'est vrai aussi au cinéma ? Est-ce que par exemple, les costumes des hommes au cinéma sont moins travaillés ? Et est-ce qu'il y a des exemples d'acteurs spécifiquement qui mobilisent le vêtement dans leur image publique ? Parce qu'on peut penser à des chanteurs,
ouais.
On a essayé de réfléchir à tout, mais est-ce que tu penses à des acteurs qui pourraient...
Ouais, complètement, bah, Timothée Chalamet.
Ouais, c'est vrai.
C'est le premier qui me vient en tête, et d'ailleurs c'est le plus représentatif, je veux dire. Mais après, Timothée Chalamet, il a quelque chose un peu d'une rockstar aussi dans l'usage qu'il fait de son style, tu vois.
Ouais.
C'est ça qui est hyper intéressant. Il se prend un peu pour un David Bowie ou je sais pas. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu où il va redéfinir le genre. Enfin bon, après moi je trouve que ça va pas si loin que ça. C'est intéressant parce que le de nu sur un tapis rouge en tant qu'acteur, c'est quand même quelque chose. C'est quand même du jamais vu, je pense. En tant qu'acteur. C'est vrai que c'était plutôt les rockers ou les musiciens british de la fin des années 60, du glam rock et tout, qui avaient cet usage du style. Et lui, c'est vrai que l'acteur, il a quand même encore une autre vocation que le musicien. Et c'est vrai que Timothée Chalamet, pour moi, il incarne ça. Après, dans les films, je trouve que... ça dépend. Je pense que peut-être que là où les habits des acteurs sont moins travaillés que ceux des actrices, c'est peut-être dans les films genre James Bond, au final.
Ouais.
Parce que les James Bond girls, elles sont quand même des super belles robes, elles sont vraiment... Après, c'est assez classique, donc c'est pas non plus une réinvention sémantique du style de l'actrice par excellence et tout. Mais bon, James Bond, il est toujours habillé pareil, quoi. Je veux dire, les James Bond Girls, au moins, il y a une petite... Il y a les couleurs qui changent, les coupes, les machins. Les James Bond, moins. Après, je pense que ça dépend du cinéma que tu regardes. Moi, là, du coup, là, je parlais de Jim Jarmusch. Ben, dans les films de Jim Jarmusch, je trouve que le rôle du costume chez les hommes, les garçons, parce que c'est... Enfin, en tout cas, dans la première partie de sa cinématographie, c'est que des garçons assez jeunes qui filment. Mmh. C'est hyper intéressant et ça l'est au même titre que Sofia Coppola et comment elle filme les adolescentes et leur lien aux vêtements, tu vois. Je pense que les hommes, ils sont tout autant concernés par cette question et qu'au cinéma, c'est justement un outil hyper intéressant pour s'y intéresser. Et c'est pour ça que j'avais voulu décoder entre les lignes le style des dandys de Jim Jarmusch dans tous les premiers films qu'il a pu sortir et tout et tout. Mais je pense que ça dépend du type de cinéma que tu regardes, ouais.
Alors, tu as fait 10 vidéos sur des films, mais aussi sur des séries, notamment Euphoria et The Queen's Gambit. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence dans la manière dont on traite le costume, que ce soit sur le petit ou sur le grand écran, notamment peut-être du fait qu'il y a un public aussi plus jeune qui regarde les séries en ce moment ?
Je pense que oui, complètement. Et je pense que d'autant plus... Enfin, je pense que le vrai gap, il a été fait... Enfin, la scission, elle a été... engendré par Euphoria, quoi. Je veux dire, Euphoria, il y a un avant-après, notamment dans les séries, mais de comment est-ce... Enfin, quelle importance on va accorder aux vêtements des personnages, au maquillage, au style, comment on va documenter tout ça aussi sur les réseaux sociaux et tout et tout. Et je pense que, ouais, dans les séries, il y a quand même cette opportunité, bah, vu qu'il y a beaucoup d'épisodes, de voir une évolution du style des personnages que en 2 heures tu peux pas forcément en rendre compte en 2 heures dans un film, dans un long métrage, ou du moins pas de la même manière. Donc il y a sûrement un travail différent. Après, je l'ai pas forcément étudié, mais c'est une bonne question. Je vais y réfléchir.
Aussi, avec la vague récente de nouvelles réalisatrices qui sont emparées du regard féminin ou female gaze qui a été conceptualisé par Iris Bray. Mm. Enfin, je pense à des films qui sont sortis récemment, comme How to Have Sex, Simple comme Sylvain, qui sont un peu en opposition avec les films de Kechiche, par exemple, comme Make to My Love, où on sent vraiment le male gaze. Est-ce que tu constates que le rapport au costume évolue à propos du corps féminin, ou est-ce que c'est les costumes qui changent, ou plutôt la manière de les filmer ?
Je sais pas, parce que tu vois, à la fois où on parlait de Euphoria, la costumière a fait un travail incroyable et on sent que c'est une femme derrière qui a un certain ressenti de ce que c'est d'être adolescente et de la quête identitaire par le style quand tu peux avoir 16, 17, 18 ans et tout et tout. C'est pour ça aussi que ça a tellement résonné, je pense, et qu'il y a aussi une vraie compréhension de son époque et de la jeunesse de son époque. Mais quand je vois je l'ai pas regardé, mais les images qui sortent de la série The Idol, on est dans une représentation tellement archétypale, mais je pense que c'est une volonté aussi... Enfin, série très controversée que moi, j'ai pas regardé parce qu'un peu la flemme, mais bon... Du coup, je peux pas dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas, dans les images qui en sont tirées, on voit que c'est quand même une manière de filmer une femme à Hollywood qui, finalement, est sursexualisée, et bon, ben, ça change pas tant. Je sais pas, moi, je pense que j'ai l'impression que c'est surtout, en fait, en fonction du projet du film et de est-ce que ça va être un réalisateur ou une réalisatrice finalement qui filme. J'ai l'impression que c'est beaucoup le regard, enfin, même si c'est un réalisateur, de qui il va s'entourer dans son équipe technique, etc. Je pense que c'est pas simplement le costume. Le costume peut pas tout faire. Enfin, je veux dire, c'est toujours habité et filmé d'une certaine manière, tu vois.
Oui, parce que Euphoria, ça a été réalisé par un homme. Mmh. Et on sent quand même le male gaze derrière tout
ça. Complètement. On sent. Ça dépend vachement des personnages, mais je veux dire, ça se sent totalement. Mais ouais, du coup, je pense que c'est seulement un facteur qui peut être activé en relation à d'autres facteurs. Et que pour avoir une nouvelle manière d'expérimenter le costume au grand écran et de le voir et de le recevoir et dans une perspective peut-être plus féministe, plus inclusive et tout, il faut non seulement que le costume le soit, mais que le casting, le chef-op, le réal ou la réale, la personne aux lumières, la maquilleuse ou le maquilleur, enfin, il faut que tous ces éléments-là s'alignent aussi pour créer une nouvelle image. Parce que le costume, il est juste tributaire de l'image au final au cinéma, je pense.
On a essayé de s'interroger un peu sur les grandes figures qui pouvaient lier mode et cinéma. Mm-hmm. Et on est tombé sur Marilyn Monroe, dont tu parles beaucoup dans tes vidéos, notamment dans la dernière sur Billie Eilish, la couverture de Billie Eilish, qui faisait référence à Marilyn Monroe. Est-ce que tu penses que c'est une figure qui est un peu indépassable, qu'on revient toujours à Marilyn Monroe, ou il y en aurait d'autres auxquelles tu penses qui pourraient lier mode et cinéma et qui sont un peu ces figures phares ?
Ouais, en tout cas pour moi, mais c'est super personnel, pour moi c'est Marilyn. Okay. Je veux dire, Audrey Hepburn, moi elle m'a jamais autant touchée que Marilyn Monroe. Okay. Mais c'est complètement personnel ça. Je pense que vraiment c'est des icônes de cinéma qui ont lié mode et cinéma, mais il y en a tellement. Enfin, je veux dire, même des personnages. Moi je sais que, en fait, Marilyn Monroe, je l'ai découverte très jeune et j'ai lu le livre de Joyce Carol Oates, Blonde, qui a été adapté au cinéma d'ailleurs, enfin navet total, alors que le livre est bien dans mon souvenir, mais je l'ai lu jeune, tu vois, je pense que je l'ai lu à 13 ans ou un truc comme ça, et je sais pas, il y a une mythologie qui s'est créée autour de Marilyn parce que son destin, il a été le sien aussi, et je pense que quand t'as un destin, enfin une telle personnalité, une telle présence qui se conjugue avec un tel destin, bon ben c'est tous les éléments clés pour faire d'elle une figure indépassable, comme tu le dis, parce que peut y avoir d'autres actrices qui ont un style absolument formidable, qui ont créé un nouvel idéal de beauté, qui seront la référence, mais je veux dire, si elles n'ont pas un destin aussi tragique, on s'en rappellera pas. Enfin, c'est un peu malheureux, hein, mais je pense que c'est comme ça que ça contribue à créer des mythes et tout. Et du coup, pour moi, Marilyn, c'est... Il y a quelque chose... Mais aussi parce que pour moi, Marilyn, je sais pas, elle a quelque chose d'une franchise que je connais pas chez d'autres actrices. Quand on regarde ses interviews, quand on lit ses interviews, quand on regarde, même quand on la regarde juste jouer dans ses films, j'ai l'impression, mais peut-être que c'est encore une fois toute la mythologie autour d'elle qui me fait dire ça, qu'elle sait pas mentir quelque part. Et je me demande si aujourd'hui... on a quand même tous ces réseaux sociaux et tout, si pour les jeunes actrices aujourd'hui, on sera jamais dans un tel rapport. Et en même temps, je le souhaite pas, parce que Marilyn, c'est horrible ce qui lui est arrivé, et elle est complètement à 100% victime aussi du patriarcat et d'une industrie qui a profité d'elle et abusé d'elle dans toutes les strates possibles. Et j'espère qu'aujourd'hui, une jeune actrice ne se ferait plus dévorer toute crue comme ça. Mais en tout cas, esthétiquement, pour moi, ouais, c'est la référence.
Et donc, on a des mini-questions de fin que tu peux répondre en une seconde.
Pas de soucis.
Donc, ton dernier coup de cœur en date parmi les sorties récentes au cinéma ?
Eh bah, bien, très bizarre, mais j'ai adoré Le règne animal que je suis allée voir il y a genre 15 jours. Je pensais que j'allais détester parce que je ne suis pas fan de Romain Duris. C'est que ce genre de film, ce n'est pas forcément ma cam. Mais franchement, j'ai adoré. Voilà.
Et ton dernier...
de popcorn aussi, pardon.
Ah, bah, trop bien.
Et ton dernier coup de cœur en film de patrimoine, enfin film qui était déjà sorti.
De patrimoine, donc vieux film, tu veux dire ?
Vieux film ou qui est sorti il y a quelques années en tout cas, enfin pas en salle quoi.
Ouais, et ben j'ai découvert Les Lèvres Rouges dans lequel Delphine Seyrig joue. Mmh. Et je vais parler de ce film dans une prochaine vidéo sur Arte aussi, dans un épisode de Déshabiller le cinéma. Et Seyrig y interprète une vampire lesbienne. Complètement farfelu, hyper bien habillé, et c'était juste un régal. Et c'est un film qui date des années 60, fin des années 60.
Et enfin, popcorn sucré ou popcorn salé ?
Je dirais salé plutôt.
Super.
Merci beaucoup.
Et voilà, l'interview est terminée. On espère que ça vous aura plu. On vous encourage fortement à aller regarder toutes les vidéos de Fashion Quiche, celles qui sont sorties et celles qui vont sortir entre le moment où on a enregistré l'interview et maintenant. Enfin, vous, ça vous fait pas de sens. Mais bon, bref, voilà. On vous intéresse à aller voir toutes ces vidéos qui sont présentes sur sa chaîne YouTube. Donc, elle s'appelle Fashion Quiche, sur Instagram en réel. Et aussi celle qu'elle fait en collaboration avec Arte, du coup, en réel sur Instagram. Ça s'appelle Déshabiller le cinéma. Et bien, voilà. Nous, on vous dit...
Salut!